Vous écoutez, on lit pour vous.
L'avenir, l'élève tôt et nous. Un dossier de Sylvia Galipeau, paru le 26 janvier 2025 dans La Presse. Respecter son rythme naturel. Chaque nouvelle année, la question nous taraude. Nos tentatives répétées, et aussitôt avortées, de reculer un brin ce satané réveil matin, y sont sans doute pour quelque chose. Il faut dire que les comparaisons font mal. Dans un article récent sur le sujet, le célèbre magazine The Economist rappelait les horaires quasi-militaires de quelques grands patrons de ce monde. Tim Cook, Bob Iger, les grands Manitou d'Apple, Disney, etc., lesquels sont déjà en mode action dès 3h30 ou 4h. Oui, du matin. Ouf! D'après un sondage cité par le magazine, les deux tiers des chefs de grandes entreprises américaines sont également levés avant 6 heures. Qu'en est-il ici? Nous nous sommes amusés à éplucher les questionnaires, 10 questions A, des collègues de la section Affaires. Résultat, les matinaux ont la cote. Peu d'entrepreneurs se vantent de se lever tard, disons. « You snooze, you lose », que l'on pourrait librement traduire par « Tu dors, tu scores pas », demandait carrément le périodique britannique. Posons la question autrement. Nous qui faisons partie du commun des mortels, serions-nous forcément plus organisés, plus productifs, en meilleure santé, bref, plus heureux, si nous démarrions nos journées aux aurores? À vue de nez, la réponse semble évidente. C'est mathématique. Imaginez tout ce que vous pourriez accomplir si vous vous leviez quelques heures plus tôt quotidiennement. Sauf que la réalité est beaucoup plus compliquée, assurément nuancée, répondent les experts en sommeil consultés. Pas la peine d'éplucher toutes les études sur le sujet. Parenthèse, on a essayé, elles sont nombreuses, se suivent, se ressemblent, puis se contredisent, fin de parenthèse, ils sont ici unanimes, citation, tout dépend de notre nature, fin de citation, résume en gros Roger Godbout, directeur du laboratoire du sommeil de l'hôpital en santé mentale de Rivière-des-Prairies. Citation, les gens qui se lèvent naturellement vraiment tôt, et on ne parle pas ici des insomniaques, dit-il, sont assez rares, entre 1 et 10 % de la population. Fin de citation. Certes, citation, beaucoup de gens aiment dire qu'ils arrivent à fonctionner avec peu de sommeil, ajoute Charles M. Morin, titulaire de la chaire de recherche du Canada en médecine comportementale du sommeil, comme les grands PDG, mais peu de gens peuvent fonctionner avec moins de 5 à 6 heures. Et si on dort moins de 6 heures par nuit environ, ça nous rattrape tôt ou tard. On accumule une dette. Et cela finit par affecter notre fonctionnement, notre vigilance, notre humeur et notre qualité de vie. Fin de citation. On n'est pas exactement gagnant. Et puis, gare à l'épuisement. Citation. Ce qui est préférable, c'est de vivre selon notre tendance naturelle de sommeil. Fin de citation, renchérit Diane Boivin, fondatrice du Centre d'études et de traitement des rythmes circadiens du Centre de recherche Douglas. L'avenir appartient à ceux qui respectent leur rythme naturel. Fin de citation. Notre tendance naturelle? On ne sera pas surpris d'apprendre qu'il existe effectivement deux types, ou chronotypes dans le jargon, de personnes, des catégories qui varient évidemment avec l'âge. Ceux qui préfèrent le matin et qui fonctionnent naturellement mieux le matin, les lèvent tôt, couchés naturellement plus tôt, et ceux qui préfèrent le soir et fonctionnent naturellement mieux le soir, les couchent tard, naturellement lèvent tard. La très grande majorité des gens se situe quelque part entre les deux, d'où les horaires typiques de 9 à 5, faut-il le signaler, et évoluent doucement vers le type lève-tôt avec le temps, les années, bref, l'âge. Citation, si vous avez tendance à vous coucher naturellement avant 22 heures, vous êtes probablement du type matin. Après 2 heures, probablement du soir, prononcé. Fin de citation, résume Diane Boivin. Pour le savoir, observez votre comportement au milieu de vos vacances, sans obligation professionnelle ou familiale. Bonne chance aux jeunes parents. Vous aurez une bonne idée de vos inclinations naturelles. Inutile de vous battre contre votre nature, c'est physiologique, poursuit la chercheuse. et vos comportements contribuent sans doute à renforcer certains traits. Ainsi, si l'on sait que naturellement, à l'adolescence, on a tendance à devenir plus du soir, l'usage d'une tablette et de sa fameuse lumière bleue, tard dans la nuit, ne fait rien pour atténuer les choses, décalant d'autant l'horloge biologique. Citation. Peut-être que ça paraît mieux, arriver au travail avant tout le monde, convient Diane Boivin, elle-même du type couche-tard, qui en connaît un rayon sur la question. Mais ce ne sont peut-être que des perceptions. Fin de citation ou des mythes. Vous écoutez L'avenir, l'élève tôt et nous, un dossier de Sylvia Galipeau, paru le 26 janvier 2025 dans La Presse. Respecter ses limites. Mais alors, pourquoi diable n'avons-nous pas été capables de trouver le moindre entrepreneur officiellement lève-tard? Et aucun mal, par ailleurs, à trouver un artiste, ce qui renforce ici un énième mythe, nous y reviendrons aussi. La chercheuse émet plusieurs hypothèses. Les gestionnaires doivent composer avec différents fuseaux horaires s'ils font des affaires à l'international, et puis ils ont typiquement des journées de travail très chargées. Citation. L'habitude, c'est de couper des heures normalement réservées au sommeil, et puis le moment où l'on peut travailler tranquille, sans être dérangé, ce sont aux extrémités de la journée. Fin de citation, fait-elle valoir. Citation. Oui, on peut aller contre notre tendance biologique pour remplir certaines obligations, nous dit Diane Boivin, mais on a tous des restrictions en matière de sommeil, et ce n'est pas tout le monde qui en est capable. Fin de citation. Citation. Il y a des gens qui ont plein d'énergie, qui dorment peu et qui sont capables de tolérer les restrictions de sommeil. D'autres, c'est l'inverse. Einstein dormait énormément. C'était un grand dormeur physiologique. Fin de citation. Tout comme Thomas Edison, qui faisait apparemment des siestes à tout bout de champ, une très bonne habitude, si vous pouvez vous le permettre, sans jamais dépasser 20 à 30 minutes pour ne pas compromettre votre nuit. Donc oui, avec un peu de rigueur et surtout de régularité, il est possible de légèrement modifier nos horaires de sommeil. On le fait tous en temps et lieu et face à certaines obligations. Un travail urgent à rendre, un travail tout court, des jeunes enfants sous notre toit, etc. Mais si vous êtes plutôt un grand couche-tard, vous ne deviendrez pas magiquement un grand lève-tôt, et vice-versa. Il y a des limites à s'ajuster. Résume Diane Boivin. Un dicton qui date. Mais au fait, pourquoi ce dicton? Il viendrait du journaliste et romancier Henry Gauthier Villard, Willy de son nom de plume, mari de Colette pour la petite histoire, et s'inscrit dans une lointaine époque pré-Internet et surtout pré-électricité, où les journées étaient effectivement rythmées par le lever et le coucher du soleil. On devine qu'à l'époque, les matinaux étaient évidemment plus productifs que les lève-tards, d'où l'adage. Citation. Mais je vous propose un autre proverbe. Qui dort dîne. Fin de citation. Reprend Roger Godbout, également professeur émérite au département de psychiatrie de l'Université de Montréal, par ailleurs plutôt du type lève-tôt. Quel rapport? Citation. Dîner au sens métaphorique, dit-il. On emmagasine des connaissances la nuit, on met en lumière ce qu'on a appris. Parce que le sommeil a des fonctions biologiques, physiologiques, sociales, il faut dormir pour les remplir. Le sommeil n'est pas une perte de temps, au contraire, c'est un besoin essentiel. Fin de citation, dit-il. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Citation. L'élève tôt, poursuit Roger Godbout, il y a aussi bien des chances qu'il se couche tôt. Donc, qu'ils voient moins leur famille, leurs amis, qu'ils aient moins d'activités culturelles. Ils ne peuvent pas gagner sur tous les tableaux. Fin de citation. Fausse bonne résolution alors que de vouloir se lever plus tôt? Citation. Il faut se poser la question. Quelles sont les conséquences? Êtes-vous plus magané en fin de journée, irascible avec les enfants ou les parents? Et puis pourquoi voulez-vous vous lever plus tôt? Contrôler votre horaire, jogger, être super en forme, mais en manque de sommeil? Fin de citation. L'horloge interne décortiquée. Notre rythme circadien, ou horloge interne, est régulé par notre exposition à la lumière du jour, explique Charles M. Morin, titulaire de la chaire de recherche du Canada en médecine comportementale du sommeil. C'est ce qui explique que l'on produit typiquement de la mélatonine dans le milieu de la nuit, puis de la cortisone vers le matin. De manière générale, citation, notre vigilance atteint un pic vers 11 heures, puis on a un creux en début d'après-midi qu'on a tendance à associer au repas, mais qui est plutôt relié à notre température corporelle en baisse. Fin de citation. De la même manière, en soirée, et selon notre exposition à la lumière du jour, citation, vers 22 heures, la température du corps diminue graduellement et c'est une période propice au sommeil. Le matin, la température du corps augmente, ce qui fait que c'est une période propice au réveil. Fin de citation. Vous écoutez L'avenir, les lève-tôt et nous, un dossier de Sylvia Galipeau, paru le 26 janvier 2025 dans La Presse. 7 mythes déboulonnés. Les mythes et idées reçues en matière d'habitudes diurnes et nocturnes ne manquent pas. En voici 7, déboulonnés avec Roger Godbout, directeur du laboratoire du sommeil de l'hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies. Mythe 1. Les lève-tôt sont plus disciplinés et organisés dans la vie. Citation. Pas nécessairement. Peut-être que parce qu'ils se lèvent tôt, ils respectent un horaire. Mais à quel prix? Et de quoi ont-ils l'air le soir? Quel genre de vie familiale, de vie sociale, de vie culturelle ont-ils? Participent-ils à autre chose qu'à leur vie professionnelle? Fin de citation. Mythe 2. Les lève-tards sont forcément paresseux, désorganisés, indisciplinés. Citation. 60% des gens environ appuient sur snooze. Peut-être parce qu'ils sont en manque de sommeil. Certains ont besoin de jusqu'à 10 heures de sommeil. Ils sont faits comme ça. Les capacités de s'adapter à certaines contraintes ne sont pas infinies. Fin de citation. Mythe 3. Les lève-tôt ont une meilleure santé physique. Citation. Pas nécessairement. Certaines études corrélatives qui démontrent une corrélation, c'est-à-dire un lien, lequel n'est pas forcément de cause à effet, vont en ce sens. L'un accompagne l'autre. Mais peut-être que c'est parce que les personnes qui se lèvent plus tôt viennent d'un milieu plus favorisé, sont mieux entourées socialement, etc. Fin de citation. Mythe 4. Les couche-tards sont des personnes généralement plus créatives. Citation. On est porté à voir les artistes comme des lève-tards, des couche-tards, à les imaginer enregistrer leurs disques la nuit ou peindre très tard. C'est sûr que quand on est parti sur un texte à écrire et que ça va bien, on est capable d'étirer ça jusqu'à 1 h du matin. Mais est-ce que c'est comme ça tous les soirs? Je n'en suis pas sûre. Fin de citation. Mythe 5. Les couche-tards ont une moins bonne santé mentale. Citation. On dit que les types du soir ont tendance à avoir davantage de problèmes de santé mentale. Là encore, on voit une corrélation. Mais je n'ai pas vu de recherche causale très convaincante. Par exemple, on le voit chez les adolescents, mais pas parce qu'ils sont des couche-tards, plutôt parce qu'à l'adolescence, on a plus l'humeur changeante. C'est donc à prendre avec un grain de sel et beaucoup de sens critique. Fin de citation. Mythe 6. Pour se lever plus tôt, il suffit d'un bon réveil et d'un peu de volonté et le tour est joué. Citation. Si c'est contre nature, il n'y a pas de magie. Et si on a besoin d'un si bon réveil, peut-être qu'on a surtout besoin de sommeil. Fin de citation. Mythe 7. Une bonne nuit de sommeil doit compter 8 heures. Citation. Non. Certains ont besoin de 9 heures, d'autres de 6. Il y a une très grande répartition. Il faut tenir un journal pendant environ 3 semaines pour avoir une idée du nombre d'heures qu'il nous faut. Fin de citation. Vous écoutez L'avenir, les lève-tôt et nous. Un dossier de Sylvia Galipeau, paru le 26 janvier 2025 dans La Presse. Deux extrêmes se confient. Stéphanie Boulay s'est levée tard le matin de notre entretien. À 7 heures, pouffe-t-elle de rire au bout du fil. Pour moi, c'est tard. D'habitude, je me lève à 6 heures. Des fois, 5 heures 30, 5 heures. Elle le sait, ça ne correspond pas exactement à l'image romantique que l'on se fait d'une artiste. Ça surprend beaucoup les gens, confirme l'autrice, compositrice, interprète qui n'en a jamais parlé publiquement jusqu'ici. On a l'impression que les artistes écrivent la nuit. Moi, c'est vraiment à 7 heures le matin que je suis le plus productive. Évidemment, ça n'est pas toujours pratique, professionnellement parlant. Si elle a tendance à se coucher alors qu'il fait encore clair l'été, vers 20 heures, avant les enfants, du temps où elle était belle-mère, Stéphanie Boulay croit que c'est l'adrénaline qui la tient debout en chaud. Ce qui étoffe, c'est le retour à la maison après. Pour enregistrer des chansons, même combat. Au printemps 2024, elle a passé quelques jours dans un chalet à enregistrer son prochain album solo qui doit sortir en avril 2025. Ça me gossait. On commençait à 22 heures, mais moi, j'étais levée depuis 6 heures. Alors j'allais pêcher au bout du quai. Quand on était rendu à faire mes voix, il était rendu super tard. Ça me stressait. Dans sa vie personnelle aussi, ça a longtemps été un défi. Plus jeune, je me couchais plus tard pour m'adapter aux autres. Mais le corps ne suit plus. À preuve, le jour de l'an, j'ai de la misère à faire le countdown. Elle s'en doute, ça doit être chiant, parfois pour les amis. Mais ce n'est pas parce que je ne les aime pas. Dans sa vie intime aussi, ça peut être compliqué. Avec son amoureux, il y a un décalage, confirme celle qui s'endort devant un film à 21h, quand son amoureux peut facilement étirer la soirée jusqu'à 1h. Mais ils se sont adaptés. On s'organise pour faire des activités ensemble en début de soirée. Je n'en ai jamais parlé parce que j'ai l'impression que ça fait de moi une madame pas sexy, rit-elle. C'est connecté négativement, je trouve. Mais mes proches le savent. À 25 ans, tu t'adaptes, mais là, dans ma vie, je suis dans un processus de tout embrasser pour accepter qui je suis. Stéphanie Boulay a eu un diagnostic de neurodivergence il y a 2 ans, souvent associé à divers troubles du sommeil. Depuis que je le sais, j'essaye moins de compenser. Ça fait peut-être partie de mon processus, avance-t-elle. Et puis le feeling, tôt le matin, d'être dehors et sentir que tout le monde est en train de dormir, c'est vraiment empowering, conclut-elle. J'ai vraiment l'impression d'avoir accès à quelque chose à quoi les autres n'ont pas accès. Ça me fait sentir on top of the game. Ça me fait me sentir libre. J'ai du temps. La vie parallèle, la nuit. Yannick Marcoux a vécu plus de 20 ans de nuit. Déjà, très couche-tard adolescent, l'auteur, poète et éditeur a ensuite travaillé plus de 10 ans dans un bar, le Dieu du ciel, où il a enfin pu vivre son rêve, c'est-à-dire vivre de nuit. « J'ai toujours vu ça comme une vie parallèle », résume-t-il. « La vie interlope de la nuit et le monde performant du jour. » Et il a toujours écrit de nuit aussi. « La nuit, une bulle se crée, l'intimité est plus facile à retrouver, personne ne vient nous déranger », confirme l'auteur de « Je travaille dans le bruit », édition XYZ. J'ai toujours chéri la nuit. Il y a un silence, il y a un temps. Comme si la vie était posée et me laissait être avec moi-même. Il y a un calme aussi, et on peut être seul avec sa création. Il ne le cache pas, cette vie en marge vient avec un certain opprobre. J'entendais toujours les gens me juger paresseux, comme si je ne faisais rien parce que je me levais tard. Yannick Marcoux, lui, revendique carrément cette vie la nuit. Ceux qui se vantent de faire leur jogging avant d'aller à la bourse, est-ce que c'est ça la vie? La vie, c'est aussi une expérience, et il manque quelque chose à la vie si la nuit n'existe plus. Cela dit, depuis 5 ans, en rencontrant sa blonde, puis avec l'arrivée des enfants, le noctambule a dû modifier radicalement ses habitudes de vie. J'ai mis la hache dans tout ça, mais je me permets quelques écarts pour écrire, glisse-t-il. Et contre toute attente, ça n'a pas été si difficile. L'auteur parle même d'une félicité. Se lever tôt, c'est quand même précieux. S'éveiller avec le monde vivant, c'est très vivifiant. N'empêche qu'il reste foncièrement attaché aux beautés nocturnes. Le monde négligé des gens qui vivent la nuit m'est très cher. Il y a un univers performatif qui est nourri par le matin, mais il y a un univers sensible, tout l'angle mort du monde qui vit la nuit. À 42 ans, s'il se dit comblé par sa vie désormais diurne de jeune papa, Yannick Marcoux n'écarte pas totalement l'idée de replonger du comté sombre un jour. « Oh oui, il se pourrait bien que je me renfonce avec eux quand ils seront adolescents », conclut-il en riant. C'était « L'avenir, l'élève tôt et nous », un dossier de Sylvia Galipo, paru le 26 janvier 2025 dans La Presse.
Être premier gardien du savoir autochtone de l'armée canadienne, une chronique de Robert Falcon Ouellet, paru le 31 janvier 2025 dans Espace autochtone. Le battement du tambour résonne dans l'air, portant des siècles d'histoire et de tradition. Pour les guerriers autochtones dans les Forces armées canadiennes, FAC, ce rythme symbolise plus que de la musique. Il marque un chemin où nos pratiques spirituelles sont célébrées. Le 30 janvier, lors d'une cérémonie aux Minto Armories et aux Royal Winnipeg Rifles, j'ai eu l'honneur de devenir le premier gardien du savoir autochtone dans les FAC en tant qu'aumônier militaire, une nomination qui était impossible auparavant en raison de la loi sur les Indiens. Ce changement est un symbole de guérison, de réconciliation et de progrès. En tant que métisse et membre de la nation Cree Red Pheasant, ce changement est profondément personnel pour moi. Je porte un héritage militaire riche, étant la quatrième génération de ma famille à servir dans l'armée, alors que trois générations ont combattu lors de la bataille de Batoche contre les soldats canadiens en 1885. Mais mon parcours dans les FAC n'a pas été facile. Mon père a fréquenté des écoles résidentielles et mon chemin a été marqué par les restrictions imposées aux peuples autochtones, surtout sous la loi sur les Indiens, qui rendait impossible pour nous de pratiquer notre spiritualité. J'ai servi pendant 29 ans dans les FAC, en commençant dans la Ligue navale et les cadets de la marine. Je suis actuellement professeur à l'Université d'Ottawa, me concentrant sur l'éducation autochtone. Pour moi, ce moment marque un changement historique dans les FAC, autrefois impliqués dans des campagnes militaires contre les peuples autochtones, mais devenu aujourd'hui un espace où nos spiritualités sont reconnues. Robert Falcon Ouellet est un anthropologue originaire de la nation Cree Red Pheasant en Saskatchewan. Il se spécialise dans les domaines de l'éducation autochtone, de l'éthique militaire et des sciences politiques. Il est titulaire d'un doctorat et de deux maîtrises de l'Université Laval. Il a également servi au sein des Forces armées canadiennes et a été député libéral fédéral de Winnipeg Centre de 2015 à 2019. Il est aujourd'hui professeur agrégé à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Un devoir de vérité et de réconciliation. Après la mort tragique du caporal Nolan Caribou en 2017, j'ai compris qu'il fallait promouvoir une culture du guerrier positive. En 2021, j'ai rejoint les rangs des Royal Winnipeg Rifles. En pleine pandémie, un groupe de soldats a formé le groupe de tambour Warriors. Nous avons créé un espace où des cercles de discussion permettent à tous de se relier à leur culture. Les soldats autochtones qui ont participé sont fiers de voir quelqu'un briser les barrières, ai-je dit. Leur participation a prouvé le besoin d'un gardien du savoir autochtone. Le groupe de tambour est devenu un symbole puissant de connexion spirituelle. Pour moi, le tambour représente non seulement la tradition, mais aussi un sens renouvelé de l'espoir. Il offre la guérison et de nouveaux commencements pour la communauté autochtone au sein des FAC et pour le Canada. Avoir des gardiens du savoir autochtone dans l'armée est essentielle pour la vérité et la réconciliation. Historiquement, l'aumônerie des facs a exigé des qualifications chrétiennes, excluant les leaders spirituels autochtones. La loi sur les Indiens rendait impossible l'accès à ce rôle pour les Autochtones. Ce n'est qu'au cours des 20 dernières années que des personnes comme les aumôniers anglicans autochtones, le capitaine Sidney Black, retraité, et la lieutenant-colonel Catherine Askew ont brisé ces barrières. Ce changement reconnaît les générations autochtones privées du droit de pratiquer leur spiritualité. En réfléchissant à cette transformation, je reconnais à quel point il est significatif pour les soldats autochtones de voir leur culture respectée au sein des facs. Il est important de montrer que les forces évoluent, ai-je dit. La connexion à l'esprit est cruciale pour la guérison. Pour moi, l'inclusion des leaders spirituels autochtones n'est pas seulement une politique, c'est la réalisation d'une vision. Un Canada où la diversité spirituelle est célébrée. Être dans une unité militaire, comme les Rifles, a été important pour ma réconciliation personnelle. Je serai bientôt transféré au Fort Garry Horse Regiment. Ces deux unités ont combattu contre mes ancêtres en 1885. Il s'agit d'une réconciliation réciproque. Travailler ensemble pour un avenir commun. En ce moment historique, le tambour nous appelle vers un nouveau chemin, un chemin où les barrières du passé sont brisées. En réfléchissant aux progrès réalisés, célébrons la diversité au sein du service de l'aumônerie royale canadienne et des forces armées canadiennes, en reconnaissant que cette diversité renforce notre nation. Ce changement est un rappel du périple en cours vers la réconciliation qui touche chaque partie du Canada, y compris les forces. La loi sur les Indiens a interdit notre foi, mais le tambour résonne, nous guidant vers la voie. La réconciliation brise les chaînes du passé et nos esprits, libres, ensemble, peuvent avancer. C'était « Être premier gardien du savoir autochtone de l'armée canadienne », une chronique de Robert Falcon-Ouellet, parue le 31 janvier 2025 dans Espace autochtone.